RFI. Grand reportage.
Le 15 mai, élection législative au Liban, un scrutin dans un contexte très particulier, puisque le pays traverse une crise économique dévastatrice. Ce sera aussi la première fois que l'on vote au Liban depuis le mouvement de contestation lancé en 2019 contre une classe politique jugée corrompue et inefficace. Liban de la contestation aux urnes, c'est un grand reportage de Nicolas Falaise.
Dans ce vaste gymnase de Tripoli, c'est aujourd'hui le lancement de la campagne de Faisal Karameh et de la liste qui porte son nom. Nous sommes dans le nord du Liban, dans la deuxième ville du pays. Plusieurs centaines de personnes sont venues acclamer cet ancien ministre, député sortant, candidat à la réélection le 15 mai prochain. Dans le système politique confessionnel du Liban, il faut situer Faisal Karameh, c'est un musulman sunnite. Et dans un pays en crise, les préoccupations quotidiennes des Libanais sont naturellement au cœur de ce discours de campagne.
Pour nous, il est inacceptable qu'on ne puisse pas acheter de la viande, du poulet, de l'essence, du mazout, du gaz et des médicaments. Pourquoi accepter que les riches deviennent encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres? Pourquoi accepter que le parti des banques conserve son hégémonie et ses privilèges? Pourquoi accepter que perdure ce système destructeur qui, pour ses intérêts et son enrichissement personnel, abuse du pays et de sa population?
Faisal Karameh brigue un nouveau mandat et depuis quelques semaines, le Liban se couvre d'affiches électorales. Des partis politiques chrétiens, druzes, musulmans chiites ou sunnites, un paysage confessionnel qui structure la vie politique du Liban depuis des décennies. Mais on croise aussi de nouveaux visages dans cette campagne électorale. Une opposition issue du mouvement de contestation qui a éclaté en 2019 au Liban pour dénoncer la classe dirigeante et le système politique du pays.
Le déclic pour l'entrée en politique, ça a été pour moi le 17 octobre 2019, le moment du soulèvement, le moment où on a cru voir la naissance d'une nation libanaise dans les rues, les places de Beyrouth et des autres villes libanaises.
Michel Helou a 32 ans. Ces dernières années, il était le jeune directeur du quotidien francophone L'Orient le Jour, poste qu'il a quitté pour descendre dans l'arène politique. Il est candidat sur une liste d'union de l'opposition.
Avant toute considération électorale, avant toute considération politique, l'enjeu, il est humain. Est-on capable de faire vivre l'espoir dans ce pays? Et c'est là où nous, les forces d'opposition, avons une responsabilité très lourde sur nos épaules. C'est celle d'être capable de redonner espoir au peuple libanais.
Vous affrontez la classe politique traditionnelle du Liban. Après le mouvement de contestation de 2019, dans la situation économique dramatique de votre pays, pourquoi a-t-elle aujourd'hui les ressources d'apparaître résister à l'occasion du scrutin qui s'approche?
La classe politique apparaît encore en position de force, malheureusement, parce que le clientélisme est ancré dans la société libanaise. Aujourd'hui, les forces politiques, elles ont la haute main sur l'argent public. Elles dominent, elles dirigent de nombreuses institutions publiques, de nombreuses administrations publiques, et elles en font bénéficier immédiatement leur clientèle. Donc ça leur donne une puissance énorme, financière, capacité à employer des gens, etc. Ils ont de l'argent de l'étranger, que ce soit de l'Iran avant tout, ou de l'Arabie Saoudite, ou d'autres pays qui leur permettent d'être beaucoup mieux financés que les forces d'opposition. Ils ont une organisation, une structure que nous, on n'a pas. Ils ont des armes, notamment pour le Hezbollah, que nous, on n'a évidemment pas. Donc tout ça, ça leur donne une puissance énorme. Donc c'est extrêmement dur pour nous de les vaincre. Mais on va y arriver parce que je pense que le peuple libanais a compris qu'aujourd'hui, ces gens-là doivent appartenir au passé et qu'il faut changer.
Alors justement, dans les semaines de campagne qui viennent, qu'est-ce que vous allez dire aux électeurs de la circonscription de Baabda pour leur dire « ne votez pas pour les mêmes changer »
Ce qu'on leur dit, c'est très simple. Ça fait 45 ans, presque, que ces partis-là utilisent les mêmes arguments et les mêmes peurs communautaires pour s'accrocher au pouvoir. On a vu où est-ce qu'ils ont mené le pays, à la destruction totale. C'est-à-dire que là, on est face à une destruction historique du pays qui est exsangue, avec une émigration massive, avec une destruction économique. C'est parmi les trois crises les plus graves, d'après la Banque mondiale, depuis 1850 dans le monde. C'est véritablement la survie du pays et l'identité, la culture du pays, l'histoire du pays qui est en jeu. Donc cet effondrement et cet échec total de la classe politique actuelle, c'est l'argument principal qu'on utilise pour dire aux gens « changez ». Oser le changement.
L'autoradio est réglée sur la fréquence du Hezbollah. La radio s'appelle Al-Nour, la lumière. Nous traversons la banlieue sud de Beyrouth, l'un des fiefs du Hezbollah, qui est à la fois un parti politique majoritaire chez les musulmans chiites et une organisation armée proche de l'Iran. Les bureaux des députés du Hezbollah ne sont pas gardés par la police ni par l'armée libanaise, mais par des hommes armés appartenant au mouvement. Hussein Haj Hassan est député du Hezbollah depuis 1996. Élu de Baalbek Hermel, dans la plaine de la Bekaa, il a été ministre à deux reprises.
Le parti Hezbollah est le plus grand parti au Liban. Les partisans sont au nombre de quelques centaines de mille. C'est un parti qui a des institutions sociales, santé, école, télévision, radio, des sociétés économiques, dans des syndicats, qui est présent dans les universités, dans les écoles, les avocats, les médecins. Donc c'est un parti qui travaille dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi quand on se présente pour les élections prochaine au 15 mai, c'est un parti qui fera partie du Parlement prochain et qui fera une partie importante avec les alliances, avec les autres partis. Je crois que nous sommes dans une position favorable pour participer à ces élections.
La question des armes, de la puissance militaire du Hezbollah est souvent évoquée. Elle risque à nouveau d'être débattu, évoqué lors de la campagne électorale qui va commencer. Est-ce que la réponse du Hezbollah, est-ce que la position du Hezbollah change sur ce sujet?
Ceux qui évoquent la question des armes du Hezbollah, durant toutes des années et des années, ils n'ont jamais donné un argument sur l'implication de ces armes dans la vie politique libanaise. Si le Hezbollah gagne les élections, il gagne des élections par le choix des électeurs et non pas par l'influence des armes. Les armes du Hezbollah, nous l'avons dit toujours et nous le disons de nouveau. Le rôle de ces armes, c'est contre l'agression, l'invasion, l'occupation, le danger israélien et des terroristes. C'est pourquoi nous insistons que le Liban doit être fort pour stopper ces dangers, pour faire face à ces dangers.
Peut-on faire entendre une autre voix dans les fiefs du Hezbollah et de son allié Amal? C'est ce que pense Ali Mourad, Libanais chiite originaire du sud du Liban, région sur laquelle flottent les drapeaux jaunes et verts du Hezbollah. Le mouvement y est ultra-majoritaire et lourdement armé. Ensemble pour le changement, c'est le nom de la liste sur laquelle Ali Mourad est candidat.
Je pense qu'au Liban, on est figé entre deux extrêmes. Une position qui considère que tous les maux du pays sont à cause de Hezbollah, donc il faut résoudre la question de Hezbollah et le pays reviendra la Suisse de l'Orient, comme on le disait. Et d'autres discours qui considèrent que le Hezbollah n'est pas une question. On n'a pas la question de Hezbollah, il ne faut pas la poser. Moi, je pense que la réponse est entre les deux. Mon problème avec Hezbollah aujourd'hui, c'est qu'il n'accepte pas sa responsabilité. Mon problème avec Hezbollah, que c'est un parti de pouvoir qu'il ne veut pas assurer. assumée. Le sud fait partie des régions où on a eu des démonstrations depuis 3 ans, comme partout au Liban. On ne peut pas réduire le débat politique au sud, qui est pour ou qui est contre Israël, et essayer de faire comprendre aux gens que si vous êtes contre Hezbollah dans la politique intérieure, vous êtes pro-israélien. Ce chantage, on le refuse. Hezbollah n'est pas mon ennemi. Hezbollah et les gens de Hezbollah, comme partout, ce sont des opposants. On s'oppose à eux politiquement. Le problème, c'est que Hezbollah, dans son attitude, il considère que toute personne qui s'oppose à lui est forcément un traître. Et nous, on refuse ce chantage. Et pour ça, je me présente au Sud.
Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est un choix particulièrement difficile de porter ce discours, de le porter dans le sud du Liban? Un an après l'assassinat d'un intellectuel chiite libanais, Lokman Slim, qui avait un discours très vigoureusement hostile au Hezbollah.
Le Sud est verrouillé politiquement depuis de longues années. Et donc forcément c'est difficile, même au niveau personnel. Moi j'ai eu pas mal de gens à la famille et tout ça qui me disaient que c'est pas le moment, il faut faire attention, il y a du danger. Mais je considère que le Sud et le pays méritent que nous prenions le risque. C'est dur, c'est difficile. Même les gens qui soutiennent Hezbollah et Amal, ils méritent d'entendre un autre discours. Même s'ils veulent choisir à la fin de voter pour Amal et Hezbollah, mais ils méritent ce droit, et moi je veux m'adresser avec toute la liste à ces gens-là pour leur dire c'est votre obligation de nous entendre et c'est votre liberté de ne pas voter pour nous.
Les affiches fleurissent sur le bord des routes au Liban. Force libanaise, courant patriotique libre, Kataeb, parti socialiste progressiste druze, Hezbollah, Amal. Mais il y a un absent de taille pour ces élections législatives du mois de mai. L'ancien Premier ministre Saad Hariri a annoncé la mise en retrait de son parti, le Courant du Futur, principale formation représentant les musulmans sunnites. Misbah Adab nous reçoit dans son appartement de Tripoli un jour de grand vent sur la ville portuaire du nord du Liban. Ancien député sunnite, il ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque Saad Hariri.
Le président Hariri n'a jamais été très présent politiquement au Liban, sauf à travers la structure de répartition entre groupes religieux parmi la kleptocratie qui gère le pays, et lui représentait les sunnites. Mais par contre, avant de partir, il a donné une conférence de presse et il a dit qu'il avait fait beaucoup de concessions, et ces concessions l'avaient mené à un moment où le pays n'était plus gérable. Et donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement redresser ce déséquilibre qui était créé par les concessions de M. Hariri et de l'opposition pour regérer le pays. De dire que finalement, maintenant que Hariri est parti, il y a un problème, il faut un nouveau leader sunnite, ou bien il faut tout simplement faire attention parce que les sunnites peuvent devenir des daïchistes. Ça, c'est du n'importe quoi. Parce que ce dont tous les Libanais ont besoin, c'est d'avoir un état de droit et d'avoir la possibilité d'être protégés par leur état et non par des politiciens qui sont choisis par l'état profond qui gèrent des intérêts personnels beaucoup plus que les intérêts du Liban. Preuve en est d'ailleurs, on est en pleine déconfiture.
Une rue du quartier de Jemaïzé à Beyrouth, une façade bleue, nous entrons au Bloc National.
Je m'appelle Naji Aboukhalil, je suis directeur politique du Bloc National. Un des plus vieux partis libanais, né dans les années 40, et qui avait décidé en 1975 de ne pas prendre part à la guerre civile, a refusé de prendre les armes, en conséquence de quoi a perdu beaucoup de son influence dans le pays à une époque où la loi des armes régnait en maître dans le pays. Quelques mois avant la révolution d'octobre 2019, un certain groupe de personnes ont décidé de travailler sur la renaissance du Bloc National, qui continue à disposer d'un grand capital et symbolique et politique chez les Libanais. Très rapidement, le Bloc National, avec le début de la révolution d'octobre, a joué un rôle central pour permettre l'organisation et le renforcement de cette opposition. Ces élections sont pour nous une opportunité de prouver qu'il y a une alternative au système confessionnel, au parti confessionnel qui gouverne le pays depuis 1975,
Après les élections législatives du 15 mai, quel que soit le nombre de députés d'opposition élus sur les 128 sièges du Parlement de Beyrouth, qu'est-ce que pourront et ne pourront pas faire ces nouveaux députés d'opposition ?
Tout d'abord, ce sera une voix, et une voix audible, claire, qui permettra à notre discours, justement, qui s'adresse à la majorité des Libanais, d'être amplifié. Mais ce sera aussi un pouvoir de contrôler et de surveiller le travail des parlementaires, notamment à travers une participation directe au travail des commissions parlementaires, par exemple. Une grande partie des réformes qui avaient été tentées au courant des deux dernières années avaient été avortées derrière des portes closes par les partis confessionnels qui prennent part au travail des commissions parlementaires. Donc ce serait aussi une manière pour nous de dire la réalité à l'opinion publique libanaise et de mettre davantage de pression sur ces partis confessionnels, dont le seul argument aujourd'hui, c'est d'accuser l'autre parti confessionnel d'être responsable de l'échec.
Les partis du système confessionnel du Liban n'ont pas été emportés par la colère de la rue à partir d'octobre 2019. Ils n'ont pas non plus été balayés par la crise économique dont beaucoup les jugent pourtant responsables à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et ces partis traditionnels pourraient même réaffirmer leur légitimité à l'issue des élections du mois prochain si l'opposition perd son pari, d'autant que cette dernière n'a pas réussi à présenter des listes d'union dans toutes les circonscriptions. Reste une mobilisation nouvelle, comme celle des jeunes Libanais qui ont imaginé la plateforme Wasil Saoutak, que Lara El-Kebi, 17 ans, nous fait découvrir sur l'écran de son téléphone portable. Élève de terminale, Lara El-Kebi sait déjà qu'elle étudiera au Canada l'an prochain, rejoignant ainsi l'immense diaspora libanaise qui cherche un avenir meilleur à l'étranger, mais elle refuse de tirer un trait sur son pays.
On a fait cette série qui s'appelle Smart Sawtoun, donc écouter leur voix, où on invite plusieurs initiatives politiques et où on leur pose 5 questions représentant leurs projets, leurs buts, leurs attentes.
Une série de petites interviews.
Exactement.
En ligne.
De petites interviews en ligne, ils peuvent le retrouver sur Instagram, sur YouTube, environ 5 à 7 minutes, mais très détaillées, très intéressantes. Leur représentation sur notre plateforme n'est pas nécessairement un engagement avec eux. On veut juste, notre principal but, c'est d'éduquer la nouvelle génération qui s'engage petit à petit dans le domaine politique et dans les votes qui s'approchent.
Vous avez 17 ans.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a décidé à travailler à ce projet à l'approche des élections du mois de mai?
Le fait que je témoigne plusieurs catastrophes du jour au lendemain au Liban, ça me pousse beaucoup vers un changement positif de mon pays. Je suis obligée de quitter et de travailler dehors, mais si je veux rester à mon pays, je n'ai même pas la chance à cause de tout ce qui se passe, à cause de la situation qui se dégringole.
Lara, l'âge minimum pour voter au Liban est de 21 ans. C'est quand même très important pour vous, à votre jeune âge, d'être ainsi engagée?
Oui, beaucoup. Et je trouve qu'on devait bien sûr changer l'âge minimum de vote parce que beaucoup de gens, bon, de mon âge à l'école, je trouve que la situation nous a vraiment changé la perception dont on perçoit la politique au Liban. On a vraiment vécu les catastrophes.
Il y a la situation présente qui est difficile, il y a les échéances immédiates comme les élections. Si on se projette un peu plus loin, à quoi rêvez-vous pour votre pays ?
Je rêve que les générations qui arrivent n'aient pas l'obligation de quitter leur pays pour se retrouver un futur. Donc j'espère qu'on pourra revenir tous un jour, toute la diaspora, toutes les personnes de mon âge qui ont dû quitter avec un grand trou dans le cœur, un grand vide, de revenir et de trouver leur propre avenir et vivre dans un pays que le Liban mérite.
Liban, de la contestation aux urnes, un grand reportage de Nicolas Falaise, réalisation Pauline Leduc.